France Inter.
Ah oui, Bill. Qui doute. Et c'est la bande originale avec Camille Lavabre, incroyable, Emma Beaujean, Tanguy Passureau, Oldelas, Daniel Morin, bonjour. Bruno Pelki et notre invité Fabrice Eboué.
France Inter, la bande originale. Leïla Kadour et Nagui.
Leïla, que vous retrouverez demain à ce micro, mais Fabrice tout de suite à ce micro. Comment ça va, Fabrice?
Bah, un peu déçu que Leïla soit pas là.
Oui, je sais. Mais quand elle a su que vous étiez là, elle a préféré se reposer. Nous allons évoquer avec vous.
Quand tout renaît à l'espérance.
Cette Normandie que vous mettez en avant, que vous mettez en valeur même, j'ai envie de dire, dans Gérald le Conquérant. Petit tour de table pour savoir si vous aviez, vous, une région dont vous pourriez défendre les couleurs, chère à votre cœur, oui, comme dit Daniel. Ouais, c'est un peu facile,
au hasard.
Vas-y, Camille, là, bon.
Oh bah moi c'est...
Tu feras un film sur Marseille?
Toujours la Bourgogne, comment
Bourgogne.
Je ferai un film sur Marseille.
Ah,
franchement, si j'en avais le talent, oui, parce que je trouve que c'est la lumière est tellement incroyable à Marseille, très objectivement.
Ah d'accord, tu portes tout souci, c'est le directeur photo qui sommeille en toi qui.
Exactement. Okay, non, j'ai bien précisé si j'en avais le talent.
Ok, très bien. Donc ça serait Marseille sans discuter. S'il y avait une région à défendre, si tu voulais être une indépendantiste d'une région.
Moi, j'aimerais bien parler de la Réunion, là où j'ai grandi, mais bon, en fait, je suis partie quand j'avais 15 ans, donc je me sens pas giga légitime, quoi, à en parler.
Parce que tu crois que Fabrice Eboué est légitime pour parler de la Normandie?
Encore moins légitime. J'allais parler de des origines de ma mère et je suis moitié brésilien. Brésil, et du coup, j'allais parler de Brasilia, la ville où ma mère est née. Et
plus que la Suisse, tu te sens
non,
plus.
Non, parce qu'en Suisse il y a la Suisse romande où là je serais prêt pour l'indépendance et le côté ça
c'est
parle français.
Ouais.
On s'écarte des Suisses allemands et on devient indépendant. Mais là juste Brasilia parce que c'est une ville pas forcément touristique au Brésil et que je trouve quand même intéressante et où j'ai de la famille.
Très bien. Puis peut-être qui se dit que le tournage au Brésil est plus sympa qu'en Suisse.
Hein. Exact, il faut penser à ça aussi.
Le financement à Genève.
Le budget, exact, c'est ça. Ouais, le budget pas le même. Tanguy,
moi, je ne suis pas pour l'indépendance des régions. Au contraire, je serais pour que la France envahisse d'autres territoires et qu'on se mette enfin à penser à une expansion. Parce que je trouve qu'on est un petit peu à l'étroit ces derniers temps. Non, je ne sais pas.
Ronds-points,
c'est moche.
À la gloire de la Bretagne pour toi?
Ouais, pourquoi? Bah, j'aime bien la Bretagne, ouais, j'aime toujours. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Mes parents étaient assez autonomistes d'ailleurs à l'époque. C'était les années 70, tout ça, vous n'avez pas connu.
Bah moi j'ai ce point commun avec avec Fabrice la Normandie mais
t'es normand toi?
Moi je suis normand ma maman et
on en sait peu sur Oldelaf parce qu'on s'en fout un peu.
Mais renseignez-vous, j'ai plein de trucs à raconter, c'est dingue. Je suis tellement passionnant.
C'est vrai que Oldelaf, on me souffle ça au casque, ça fait viking.
Ça fait totalement viking,
ouais. C'est vrai.
Astérix,
Daniel, tu serais toi pour
Bah il y avait le Vichy de la belle époque. Mais bon,
voilà. On parlait pas politique, on parlait région. Tu mettrais en valeur.
Très
tu mettrais en valeur quelle région, toi?
Les Vosges.
Les Vosges.
Oui. C'est sous-estimé.
Pour son image d'Épinal.
Michel Fourniret, tout ça.
C'est ça. Ses camionnettes.
Ses amis, quoi.
Bien sûr. Ça ressemble à Daniel.
Et toi?
Moi, ça serait la Côte d'Azur qui a cette image de région.
Tu dis ça parce que tu viens de la racheter.
J'en rêve. Et en fait, il y a des coins, il y a des villages où on fait encore de la poterie, où on fait des verreries de biote. Enfin, il y a des trucs super beaux sur la Côte d'Azur et pas uniquement le côté bling bling, festival de Cannes et villa de stars. Fabrice Eboué, vous êtes sincèrement pour défendre la Normandie, vous êtes dit c'est un bon pitch de film, je vais y aller à fond.
Ah, non, défendre la Normandie, juste pas pour l'indépendance de la Normandie, hein, attention.
Non, mais il y a beaucoup d'autodérision dans le film, on va pas spoiler la fin.
Je voulais parler du grand thème actuel, à savoir l'identité. Et qu'est-ce que l'identité? Où commence l'identité? Où se finit l'identité? Donc c'est ça qui m'intéressait. Après, ça faisait longtemps que je voulais faire un truc sur la Normandie, parce que j'avais rendu hommage quelque part à mon père à travers divers films.
Déjà,
La partie Cameroun, je me suis dit quand même, ma mère se plaignit en fait.
Ouais. qui a tout mis sur l'Afrique et rien sur la Normandie.
Exactement.
C'est ça,
donc il fallait faire quelque chose sur la Normandie à laquelle je suis très attaché. Je voulais faire quelque chose d'original. Voilà.
Alors c'est réussi parce que c'est vraiment le côté identitaire justement est mis en exergue tellement il fait peur. D'ailleurs ce personnage fait peur avec ses yeux que vous arrivez à exorbiter. C'est assez impressionnant votre capacité à avoir ce regard caméra.
Mais il fait peur, mais aussi on a un peu de tendresse pour lui.
Aucune.
Moi, j'ai vraiment moi qui suis humain.
J'ai vraiment envie de prendre le panneau de ville et de lui mettre dans sa masse. Franchement,
encore.
Ouais, comme dans le film. Ça m'inspire. J'ai vu le film et j'ai. On a beaucoup ri en voyant ce film. On va en parler jusqu'à 12h30. Mais d'abord, voici Hold the Laugh, fan de Fabrice Eboué.
Ensemble au plan manteau qu'on a commencé. Wow. Et puis vous bam, le succès, la télé canne, les marches. C'est dingue, dès que je croise quelqu'un, c'est pour lui que ça marche. Et vous êtes ici pour Gérard le Conquérant. Un film sur un mec un peu trop fier d'être normand. Ça pose la question de ce qu'est un normand. C'est comme un mec normal avec de l'alcool dedans. Je suis fan de Fab et j'ai le même genre de dos. Un papa du 9-4 et une maman du Calvados. Alors normal, j'ai adoré votre feel good movie sur un parc identitaire made in Normandie.
Waouh, l'enchaînement. Mais non,
je suis un comédien et je viens de Vers Champigny.
T'as osé.
En 2006, j'intègre l'équipe du Jamel Comedy.
Je suis pas en avance.
À partir de là, ça cartonne, je deviens une vedette, c'est vrai.
Oh, je voyage.
Je dis quelques bêtises et très souvent, ça fait rire les Français.
Oui, mais...
Et je reviens avec un film géant sur un cassos, Gérald un conquérant. Les vaches rouges, blanches et noires sur lesquelles tombe la pluie. Un parc identitaire, Normandie. On se marre avec des connards, des pauvres qui squattent les prairies, des Parisiens qui envahissent la Normandie, des femmes médinormandies, des skins médinormandies. Un petit peu angoissant aussi. Ça permet de rire quand même et de réfléchir à quoi serait la France dans 2 ans si on fait une grosse connerie. Pour que les gens voient plus rouge, pour qu'on se parle mieux que ça, ou qu'on leur donne de l'amour, l'amour made in Normandie, évidemment.
Je suis fan de... Quel enchaînement.
C'est
du live.
Heureusement, on n'est pas en direct. Je suis fan de vous, vous êtes le prince du cool. J'ai une surprise pour vous, j'ai ramené de la tergoule. Vous êtes notre invité, on vous fera pas de mal. Bienvenue à vous avec la bande originale.
Il est où le Viking?
Allez, samedi, il sera à Mamers.
C'est vrai?
Oui, c'est vrai.
Mamers. Mais tu prononces le S, oui.
Ah, on prononce le S de Mamers.
Très bien. C'est dans quelle région?
C'est dans la Sarthe, je crois.
Parfait.
Allez, à côté du Perche.
N'en fais pas trop non plus. Gérald le Conquérant, il a beau name dropper Guillaume le Conquérant tout le long, il est ce Gérald totalement barré. C'est vrai qu'il a un taux d'alcoolémie assez,
assez constant,
assez présent. Il en est au stade, oui, de se dire s'il y a un parc d'attractions d'Astérix en région parisienne, alors qu'il il vient quand même de Bretagne. Il n'y a aucune raison que nous aussi, en Normandie, on ne fasse pas un vrai site touristique. Et on cartonnerait parce qu'il y a des McDo, il y a des Coca. Enfin, ouais, c'est
non,
film,
ça,
hein.
Ça m'est vraiment venu en amenant mon fils au parc Astérix, puisqu'il a l'âge. Mais oui, mais c'est quand même surprenant d'être au parc Astérix. Tu fais une pause déjeuner. Et là, dans toutes les boutiques, c'est uniquement vraiment des burgers et du Coca. Je dis, c'est
vous lui avez vraiment gâché la sortie.
Le mec qui est très premier degré à chaque fois.
Non, mais c'est vrai, vous voulez quoi? Vous voulez des sangliers?
Ah, oui,
une rôtisserie?
Ouais, moins semblant, quoi. Au moins la cervoise. Non, mais un minimum. Sinon, les gamins, ils comprennent pas, si tu veux. Donc, je me suis dit, si lui fait un parc normand, c'est pour ça qu'il va mettre des canons à eau pour qu'il y ait de l'appui tout le temps, comme au ski avec les canons à neige. Je me suis dit, je veux un vrai truc normand, quoi. Un parc identité.
Ok, voilà. Ça, c'est le point de départ de la vanne. Mais c'est vrai aussi que la toile de fond est extrêmement brillante et intelligente de faire cette comédie avec finalement tout ce qui se passe dans notre société aujourd'hui. C'est-à-dire, on pointe du doigt tout le monde, les identités sont montées les unes contre les autres, on va dans des excès.
Oui, et puis surtout, on constate, puis surtout, on n'a toujours pas réussi à définir ce que c'était que l'identité.
Ouais, c'est ça.
Pour moi, en ce qui me concerne, je pense que chacun construit son identité par rapport à son vécu, par rapport à ses origines aussi, mais par rapport à ce qu'il est.
Ou la
qu'il...
revendique en fonction de sa couleur politique aussi.
Et puis je crois surtout que son identité, au bout d'un moment, on l'oublie, ça fait partie de nous, puis on avance comme ça. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce que j'ai voulu dire. J'ai aussi voulu, alors je peux pas raconter la fin du film, mais le ridicule de ce que peut être l'identité quand c'est mis en exergue en permanence.
Ce que vous montrez, c'est que votre personnage, quoi qu'il arrive, il sait pas quelle identité, mais en tout cas, il veut être militant identitaire, quelle que soit cette identité.
Oui, parce que je crois qu'on essaye de nous faire croire que si on n'est pas sur-identitaire aujourd'hui, on n'est personne.
Ouais.
Moi, je pense que justement, l'identité, c'est quelque chose de très personnel, au contraire, qu'on la construit chacun à sa façon. Mais aujourd'hui, il faudra appartenir à un groupe, à une identité, et surtout se positionner contre les autres.
Choisir si un camp.
Le fameux choisir un camp. Ouais.
C'est ça, non, mais c'est très, très tendance. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que lorsqu'il y a des années, je dis n'importe quoi, une française de pure souche, comme le disent certains partis politiques, s'amuser à faire des dreadlocks parce qu'elle trouvait ça beau, on a dit « Ah non, attention !» Appropriation culturelle.
Ouais, tout à fait.
Vous êtes blanche et blonde, il n'y a aucune raison que vous fassiez, que vous ayez des dreadlocks. Ce qui était une ouverture d'esprit dans les années 80-90 en disant, mais moi
j'ai une mauvaise coupe de cheveux après.
Non, mais vous voyez ce que je veux dire.
Bien sûr, c'était, bien entendu.
J'aime les autres cultures et je vais vers ces autres cultures et je vais prendre ce que j'aime ces autres cultures parce que je les aime. Devient de quel droit vous allez chercher ça et ça dans telle culture. C'est-à-dire que ça devient maintenant de l'appropriation culturelle.
Ouais, il y a ça aussi.
Ce qui était d'ouverture, à mes yeux, il y a 10 ans.
Ouais, après, ça rejoint un certain militantisme identitaire aujourd'hui, à savoir... on le voit, nous, dans les spectacles, c'est-à-dire s'il y a un militant de telle ou identité ou d'une autre dans la salle, tu peux plaisanter sur toutes les autres identités, mais si tu abordes le sujet qui est le sien ou qui le concerne, là, c'est plus drôle. Moi, je le vois sur certains trucs, c'est-à-dire on peut rire de tout sauf ce qui me concerne, et c'est là où ça devient assez paradoxal.
Donc, vous pouvez facilement le faire avec... en utilisant le mot de case... En jouant avec vos racines africaines et le faire en Normandie aussi, en disant ok, c'est vrai. Je suis légitime pour faire la vanne, donc je peux y aller à fond.
Bon, moi, je cherche pas légitimité, je cherche en tout cas une justesse dans mon propos et que ça me ressemble. Je pense pas qu'on soit, justement, dire que certains seraient légitimes et pas d'autres, on rejoindrait le côté très identitaire, chacun.
Ça dépend comment c'est fait. Ah, pardon, mais sauf que vous avez du sang normand.
Ah oui, alors j'aurais pas été normand, j'aurais pas fait ce film-là.
Et pas que sur les mains, je veux dire, vous avez vraiment
sur le pare-choc.
Non,
je suis, comme je dis, attaché à la Normandie. Mais comme je dis, après, c'est une fable, ça aurait pu être n'importe quelle région de France. Finalement, moi je rends quelque part hommage à ma famille au côté normand.
C'est ça.
Et puis j'avais les références.
Vous avez les codes.
Voilà, j'avais les codes. Je suis régulièrement avec ma famille qui est de la Normandie, du Calvados profond. Donc tout le délire autour des Parisiens, c'est une réalité. Eux, quand arrivent les ponts du mois de mai, ils pestent après les Parisiens, etc. Donc tout ça, ça existe aussi, même si c'est un peu caricatural.
Mais c'est pas tant les taupes que vous voulez éradiquer, ce sont les parigots.
Ce sont les nuisibles. Et aujourd'hui, là, c'est des termes qui reviennent. Et lui, le nuisible, c'est beaucoup de choses, quoi. Dès que ça nuit à ce qu'est la Normandie d'antan, ça n'a plus sa place.
C'est pas la bonne vache aussi, ça peut être dangereux pour la région.
Tellement drôle. Logan Lefèvre qui joue votre beau-fils dans le film.
Incroyable.
Puisque vous êtes avec Alexandra Roth, qui est formidable aussi. Alexandra Roth, qui est donc la maman avec laquelle vous êtes et dont vous vous la première scène. Je suis désolé de la spoiler. Pardon, j'ai pas vu l'abondance. Je sais plus si c'est dans l'abondance ou pas. Je sais même pas quel prénom elle a. tellement le mec, il est à côté de la plaque.
Enfin, il confond avec le prénom de la femme de Guillaume le Conquérant, en
voilà,
fait.
Voilà, c'est ça. c'est extrêmement drôle et il est... lui, il joue très très bien et il joue le gars prêt à tout pour vous suivre, mais il va même encore plus loin
Ouais, il fabrique des
sur un pauvre alpaga.
Ouais, effectivement. Bah, je veux, on peut pas tout dire, mais je souhaite que les vaches, en tout cas en Normandie, restent normandes.
Et soient uniquement normandes. Ouais, dès l'instant où elle n'est pas blanche avec des taches brunes et des lunettes, on a bien compris que c'était ça, des lunettes, bah, lui, il les fait exploser.
C'est très drôle parce que moi, quand je suis arrivé en Normandie, qu'on a bossé avec Eric, qui a cette ferme pédagogique et donc qui est éleveur en même temps, moi-même, depuis des années, je ne savais pas en fait définir une vache normande. Bah, pour moi, une vache normande, c'était celle avec des taches. Et je les confondais avec les Holstein, qui sont les principaux, en fait, qui concurrencent aujourd'hui la vache normande, parce que c'est les vaches laitières qu'on voit beaucoup, qui sont les plus rentables, et donc il y a beaucoup de ça en Normandie. Et moi-même, je faisais l'amalgame entre les deux. Donc,
T'as l'air d'accord, Olaf. T'as l'air concerné par le problème.
Je trouve ça passionnant, en tout cas.
J'ai l'impression qu'il faut pas dire oui, conneries devant le gars.
Non, là, je vais vérifier tout, là.
En fait, pour résumer, vous cherchiez une idée pour faire un film autour de la Normandie, et c'est le prisme du parc Astérix et du côté identitaire qui a donné le résultat d'une fiction, mais que vous tournez comme si c'était un doc. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de face caméra, il y a des témoignages, ce ne sont que des acteurs et des actrices qui jouent et qui jouent extrêmement bien. Et vous, vous jouez ce personnage qui est... Et je reparle de votre regard parce que franchement, il fait peur. Je ne sais pas où vous êtes allé chercher ces yeux qui s'ouvrent comme
en
ça.
Fait, sur mes films précédents, on me dit toujours fais attention à tes yeux, ils sortent très facilement. Donc là, je me suis dit, bah, je vais me faire plaisir, comme ça, il n'y aura personne pour me dire tu sortais.
Ça veut dire quoi, les yeux sortent? Ça veut dire que vous
forcez? C'était pour marquer, oui. Par contre, je force un peu pour qu'ils sortent. J'ai une facilité à le faire, merci mon père. Mais en l'occurrence, oui, là, je me suis dit, c'était pour marquer que le mec, à des moments, on le sent vriller et on ne sait pas quand ça va basculer. Ouais.
Et qu'il est quoi? Qu'il est possédé? Qu'il est hypnotisé? Qu'il est peu fada, quand même, sur les bords et...
On comprend à la fin du film que son identité est faussée, que ça s'est construit sur quelque chose qui est un peu faux. Et comme tous les gens qu'on se bagage parfois un peu lourd, ça peut vriller un moment. Ouais.
C'est drôle, c'est donc intelligent comme vous l'aurez compris, parce que ça soulève beaucoup de problèmes de notre société en ce moment. Problème identitaire, problème d'accepter l'autre, problème du vivre ensemble. Enfin, vous pouvez mettre plein de choses dans ce chapeau, mais tout est fait avec, j'allais dire avec finesse. Pas toujours, puisqu'il y a quand même des vannes assez explosives.
Non, mais il y a un pas de côté quand même.
Mais voilà, c'est malin.
Non, c'est ça, c'est pas du premier degré. Mais on peut dire que c'est fait un petit peu à la façon de striptease.
Oui, donc je suis un grand fan. Ouais. En fait, vous avez parlé, du parc Astérix, de mes origines normandes, et la dernière composante, c'était striptease. Après, je mets tout ça dans mon cerveau malade et on sort le film. Mais striptease, c'est toujours, enfin, ceux que je préfère moi, c'est toujours les personnages qui ont cette folie des grandeurs, que ce soit construire une soucoupe volante, que ce soit l'indépendance de la Savoie, il existe, que ce soit...
Ils ont un côté attachant aussi.
Oui, mais c'est ça, il y a ce pathos.
C'est intéressant.
Et toi, tu l'as compris, ce que Nagui n'a pas voulu saisir.
Voilà, fin de cette émission, merci Fabrice Eboué. Sans déconner, il est fou quoi.
Non, il a raison.
Voici Bruno Pecky.
Bravo.
Parce que vous, Bruno, vous n'auriez pas fait un film comme ça, vous auriez fait un bon film. Vous.
Mais bien sûr que non. Effectivement, Nagui. Ah, mais surtout parce que c'est absurde d'être un identitaire, survaloriser sa région natale, être persuadé que la sienne est la meilleure et penser que son identité est menacée. Franchement, ça n'a aucun sens. Surtout quand c'est pour défendre la Normandie. Parce que moi, j'ai grandi à Genève, qui est objectivement la meilleure ville du monde, donc j'aurais aucun mal à la défendre.
Bien sûr.
D'autant plus qu'en ce moment, il faut se battre, hein, parce qu'on est envahi par une quantité de Français qui viennent bosser chez nous pour voler nos travail et nos femmes. C'est pour ça que maintenant, je bosse chez France Inter et ma copine est parisienne, hein, c'est pour équilibrer les statistiques. Ah, et on l'a dit, vous avez fait un film sur un Normand qui s'appelle Gérald le Conquérant. Je pense à ce pauvre Gérard le Normand qui voit sa Google Alert exploser et se dit « Ah super, ma carrière repart !» Alors que non, c'est juste des gens qui tapent trop vite en cherchant des infos sur votre film. Ah, moi aussi, votre film m'a redonné de l'espoir et je vais aussi créer un parc d'attractions en Suisse. Voilà, tout sera autorisé sauf deux choses, les Français et crier dans les attractions pour pas déranger les autres visiteurs. Il y aura même une attraction où on pourra faire un truc fou, absolument impossible ailleurs en Suisse, jeter un papier par terre. Il n'y aura pas de montagne russe, mais les montagnes suisses, voilà, c'est un manège qui va super lentement et qui va tout droit, sans aucune montée ni descente. Grosse intérêt. Voilà.
J'adore.
Et évidemment, il y aura un escape game où si tu veux sortir, tu dois retrouver l'or des nazis, ou le compte de Jérôme Cahuzac pour les plus jeunes. Prix d'entrée pour le parc, gratuit. Ah non, pardon, un SMIC, je confonds tout le temps. Parce qu'on a beaucoup de points communs, les Suisses et les Normands. Vous avez Guillaume le Conquérant, et nous, on a aussi un Guillaume Tell. Bon, le vôtre, il a conquis l'Angleterre. Nous, il a tiré une fois à l'arbalète sur une pomme qui se trouvait sur la tête de son fils. Heureusement que la DAS n'existait pas encore, sinon on n'aurait jamais eu de héros national. Et je me suis renseigné sur Guillaume le Conquérant et j'ai appris qu'après sa mort, son corps avait tellement gonflé que lorsqu'on a voulu le mettre dans son cercueil, il rentrait pas. Et son corps a éclaté en libérant une odeur insupportable.
Mais non,
ouais. Exactement.
Bah, j'ai déjà eu peur de péter un enterrement, mais je pensais pas que c'était possible de le faire à ses propres funérailles. Quoi. Et j'ai aussi appris qu'il parlait plusieurs langues, mais pas l'anglais. Ouais, franchement, est-ce qu'on peut faire plus français qu'un mec qui est roi d'Angleterre et qui ne parle pas l'anglais, quoi. Tu m'étonnes que ce soit votre idole en France. Je comprends mieux maintenant pourquoi les touristes français partout sur la planète essayent de parler français aux locaux, mais très fort, qu'ils comprennent bien. C'est pas de l'arrogance, c'est juste l'héritage de Guillaume le Conquérant. Bref, revenons à votre film, Fabrice, pour lequel on l'a dit, vous êtes inspiré de Striptease. Et moi, j'avais jamais entendu parler de l'émission.
Ah bon?
Donc, quand j'ai vu, non, je te jure, ouais, quand j'ai vu l'affiche torse nu dans Paris avec écrit Gérald le Conquérant et inspiré de Striptease, je me suis dit, bah ça y est, Fabrice Eboué s'est lancé dans le porno, sous un pseudo, et ça va être un gangbang. D'ailleurs, je connais quelqu'un sur qui on pourrait faire un Striptease. L'émission, hein. Calme-toi, Daniel, pour la danse, ce sera pour ton pot de départ à la retraite. Jeudi prochain, je passe tes dispo.
Je suis là.
Non, mais quelqu'un sur qui on devrait faire réellement une émission de Striptease, c'est Charles. Alors, qui est Charles?
Oui,
eh bien,
oui.
C'était le compagnon de chambre de Fabrice Eboué à l'internat La Providence à Amiens et qui, l'année d'avant, avait eu dans sa chambre Emmanuel Macron. Le mec
mais
a fait un an dans la chambre de Macron, puis un an dans la chambre d'Eboué. C'est sûr qu'il a des trucs
a
à nous
nouvelles.
Dire. Je te jure, c'est vrai. Non, mais c'est fou. Je veux dire, il y a un de ses collègues qui fait marrer la France entière en s'énervant dans un micro et l'autre, il est devenu humoriste. En attendant, allez voir le film Gérald le Conquérant. Gérald le Conquérant. Et même si vous n'êtes pas normand, ça fonctionne hein, dans toutes les régions car ça réunit la France autour d'une passion commune. La haine des Parisiens, voilà.
C'est vrai.
Et même
c'est
à Paris,
vrai.
Ça marche, hein, parce que les premiers à ne plus supporter les Parisiens, c'est qui?
Les Parisiens.
Parisiens. Voilà. D'ailleurs, faut que je vous laisse, moi j'ai un train pour Deauville.
Merci, Bruno Becchi,
sur scène,
le Brasilo-Suisse.
Ce sera au Point Virgule et ce sera le 27 janvier.
C'est quoi cette histoire de roommate?
Alors, je sais pas si Charles a été... moi, j'ai été viré, je crois, de 7 établissements en tout. Donc, au bout d'un moment, mes parents ne savaient plus où me mettre.
Ils ne savaient plus où vous cherchiez à la sortie de l'école. Il est où
En sachant que ma mère était prof, hein, donc c'était pas évident pour elle. Ouais, la honte. Donc, elle m'a expatrié sur Amiens à l'internat, où j'ai dû rester 3-4 mois. Pareil, j'ai été renvoyé. Et donc,
l'indiscipline?
Oui, c'était toujours l'indiscipline. J'ai plus à chaque fois les raisons. Je sais qu'une année, je sais parce que c'est mon plus beaucoup, j'avais mis des souris, 30 souris dans la classe à midi à la pause déjeuner, ça a foutu un bazar.
Et c'est votre côté Disneyland précurseur,
ouais,
ça. Les souris.
Où est-ce que vous avez trouvé les souris?
Bon, à l'époque, t'avais le quai de la Mégisserie, tu sais, le long
oui,
de la Seine.
Oui, tous animaux. Ouais.
Les animaux qui étaient très maltraités et qui étaient entassés les uns les autres, donc je les avais libérés quelque part. C'était un acte social.
Donc vous ne savez pas si Charles a vraiment...
Alors, Charles, je le connais encore, il vient régulièrement à mes spectacles, Charles Cure, hein, pour ne pas le citer. Et donc, je suis né en 77 comme Macron, j'avais un an de retard, il avait un an d'avance, donc nous on s'est pas croisés, mais lui a fait le redoublement entre les deux, donc il a pu côtoyer les deux,
cool.
Et il m'a toujours dit, je me doutais bien qu'il allait vous arriver quelque chose de particulier aux deux, je savais pas quoi, et puis finalement voilà.
Si ça avait été l'inverse.
Si ça se jouait à rien du tout.
La vie est un enveloppe tranquille, tu changes juste les deux berceaux. Oh là là. Fabrice Eboué, président, aurait fait quoi? C'est peut-être le sujet d'un prochain film. C'est un super pitch de départ, n'empêche. D'inverser vos parcours tous les deux.
C'est pas mal du tout. Je vais le noter tout de suite.
Ouais, notez-le. C'est trop tard, je l'ai déjà déposé, mais notez-le quand même. Pour en revenir à votre film, donc, le point de départ, j'allais dire, avec sa naïveté, c'est de dire, je vais faire du bien à la région, je vais faire de la promotion, on va pouvoir faire des attractions, parce qu'il accueille des enfants. C'est extrêmement drôle aussi, parce que c'est une ferme pédagogique, donc il y a des enfants qui viennent de temps en temps, et on voit le regard des maîtresses qui, sans dire un mot, et elles jouent super bien, les actrices que vous avez castées, sont tétanisées d'entendre les propos tenus par cet agriculteur qui, la manière dont il parle, la manière dont il touche les mamelles
c'est gênant. Est très, très
tout est gênant.
Quand il
alors
parle
c'est juste
mamelles.
Un passionné, oui.
C'est, tout est gênant.
Quand on aime le travail bien fait,
c'est
on ne rechigne pas. Hein.
Et donc, on peut être de son côté au début et on voit la manière dont il monte en puissance. au point d'arriver à ce que l'on appelle la radicalisation, mais dont on ne voit pas finalement le processus. On ne fait que le constater sur certaines chaînes qui font pratiquement la une de leurs journaux quotidiens qu'avec ça, mais on ne voit pas comment on peut partir, entre guillemets, de pas grand-chose pour arriver à des excès. Et il est très excessif.
Ouais, mais moi, je crois qu'il y a un dénominateur commun, parce qu'évidemment, ça parle de radicalisation, puisque ouais. Petit à petit, et il y a toujours l'échec et la frustration. À la base de toute radicalisation, ce dont j'ai regardé, évidemment, c'était plus sur des trucs sur Daesh, la Syrie, où des gamins peuvent partir parce qu'ils ont échoué, ils sont pas rentrés dans l'équipe de basket, j'ai vu un profil comme ça, donc il est parti. Donc j'ai toujours vu que c'était quand même des choses assez bénignes, et puis après, rapidement, ça... Donc c'est à chaque fois la frustration, pour moi, qui va conduire à ce genre de choses, et lui, c'est la frustration, son projet n'avance pas, et puis c'est le trouble identitaire dont on a parlé au départ, où il veut être plus normand que le normand.
Voilà.
Parce que la question, c'est est-ce qu'il existe une gueule de normand, depuis les Vikings et après, mais en tout cas, lui se dit il y a un truc qui cloche, et donc ça l'agace particulièrement.
Non, mais ce qui l'agace encore plus, c'est que ses potes au troquet ne comprennent pas, ne voient pas spécialement le danger, ne le suivent pas dans ses délires. Il est un peu la risée aussi des autres.
Ah bah oui, bah bien sûr. Il y a un côté d'ailleurs un peu soupe aux choux. Moi, ouais. J'adore ce film-là, écrit par René Fallet à la base, mais ce côté idiot du village, où le type dit j'ai vu un extraterrestre, puis tout le monde le prend pour un con. Bah lui, son extraterrestre à lui, effectivement, c'est ce parc à la gloire de la Normandie. Ouais.
L'extrémisme est toujours dangereux, de quelque bord qu'il soit, et c'est ce que démontre le film. C'est une comédie, c'est familial, c'est drôle. C'est vraiment drôle, c'est tourné, encore une fois, comme si c'était un documentaire, c'est qu'il y a beaucoup de regards caméra, mais vous me confirmez que tous les personnages sont des acteurs, des actrices.
C'est pas comme pour voir Striptease, on voilà. Sort maintenant au cinéma. Non, là on a, il y a un scénario au départ, voilà, il y a des acteurs ensuite.
Et il y a pas mal de figurants qui sont de la région, il paraît. Que vous avez
oui, on a essayé quand même de bosser.
Mais ils sont rémunérés, c'est dit dans le film, 10 euros.
Et des bières tièdes.
Même si on n'a pas pu tourner à Deauville, en tout cas, voilà.
Vous avez essayé ?
Ah bah oui, parce que il a fallu que j'envoie le script au maire qui a lu.
Qui n'a pas pu accepter.
Et il a dit habituellement, je vous trouve très drôle, mais là, ça ne m'a pas fait rire du tout.
Non !
Quand je disais, on rit de ce qui ne nous concerne pas, et là, tout d'un coup, il a dit il n'est pas question. Donc, la scène du panneau Deauville, je suis à 50 mètres de Deauville, mais je ne suis pas à Deauville même. C'est un faux panneau qu'on a reçu.
Et le Franck Dubosc est un vrai Dubosc. Hein. J'ai reconnu son peignoir.
Hyper ressemblant.
Parce que là aussi, il y a une autre mise en abîme, c'est celui que vous devez peut-être rencontrer, que vous croisez dans la rue, qui finit par attraper votre numéro de portable ou votre compte Insta, et qui vous harcèle et qui vous saoule parce qu'il veut absolument obtenir quelque chose de vous. Vous l'avez déjà vécu, ça, le fan un peu relou ?
Oui, bon, on l'a tous vécu. Et puis, alors, au bout d'un moment, on apprend à les contourner. Par exemple, parce que généralement, le type moins chiant, c'est le type « Bonjour, je peux prendre une photo, ça va très vite.
Ouais. » Ah oui, mais je peux prendre votre portable, ça, c'est plus lourd.
Oui, ou alors il y a celui qui t'arrête en disant ça doit être très chiant les gens qui vous parlent dans la rue. Et on est parti pour 10 minutes pour à la fin demander la photo ou un petit service. Ça c'est les pires évidemment.
Mais c'est pas pour moi, c'est pour ma femme ou ma grand-mère.
Et Franck Dubosc, ouais, c'était c'est marrant parce que c'était une scène. Je me suis dit c'est là où on va voir si ça fonctionne ou pas quand on l'aborde sur le parking, comme il joue son propre rôle.
Ouais.
Il me fallait le Normand peut-être le plus connu. Alors Guillaume le Conquérant c'était plus possible et puis on parle déjà de lui. Après c'était soit Aurel San, soit Franck Dubosc. Hein. Donc bon, je me suis dit pour ce genre de comédie c'est peut-être mieux d'avoir Franck. Et je me suis dit, si le film marche, quand on l'aborde sur le parking avec mon beau-fils, il faut vraiment qu'on voit deux cinglés et pas la réunion de deux comiques comme on a vu souvent. Et vraiment, je me dis, oui, c'est vraiment deux cinglés qui l'abordent sur le parking, donc ça fonctionne.
Et là où on voit que c'est une fiction, c'est lorsqu'on voit Franck Dubosc faire lui-même ses courses à l'hypermarché. Le film sort mercredi, signé Fabrice Sévoué, et ça s'appelle Gérald le Conquérant. Voici Camille Lavard, bon Marseille.
Bravo.
Bon Marseille.
Vous savez pas ce qui s'est passé la semaine dernière ?
Non.
Je me balade tranquille dans la rue quand soudain je me fais accoster par un homme d'une cinquantaine d'années. Alors je sais ce que vous vous dites, mais enfin Camille, 30 ans d'écart, mais c'est énorme ! Alors, c'est pas du tout ce que vous croyez. Non, le type me dit « Excusez-moi, je me permets de vous aborder car j'ai vu pas mal de vos vidéos. Moi je fais partie d'une association et il se trouve qu'on recherche des personnalités pour accroître sa visibilité. » Et là, d'un coup, je me souviens que, mais oui, contrairement à ce que pensait mon ex avant d'être une femme, je suis d'abord une personnalité. Non mais c'est vrai, j'avais oublié. Non, mais ça, c'est parce que j'ai la chance d'avoir un entourage qui me permet de garder les pieds sur terre. Ne serait-ce que les commerçants en bas de chez moi. Je vais vous dire, typiquement, le bar de mon quartier, dans lequel je vais tous les matins depuis bientôt 3 ans, eh ben, vous croyez qu'une seule fois, ils m'ont demandé une photo ou offert un café? Bien sûr que non. Parce qu'ils savent que le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à une star, c'est l'anonymat. Hein, on est bon. Alors que dans le fond, comment pourrais-je oublier mon statut? Comment pourrais-je oublier que l'année 2024 a surtout été marquée par la performance d'Aya Nakamura au JO et par ma chronique sur les abdos fessiers? Et non, effectivement, Emma, t'as raison, pas dans cet ordre. Mais bref, non, c'est cool que d'autres s'en souviennent pour moi, quoi. Et donc, le mec poursuit. En fait, je fais partie d'une association qui recherche des personnalités pour nous rejoindre dans le but de sensibiliser les jeunes sur les dérives de la pornographie. Et là, je m'interroge. Pourquoi moi? Oui. Pourquoi m'accoster moi? Et surtout quand tu dis qu'il a déjà vu mes vidéos. Par desquelles exactement? Non, wow. Parce que moi, la seule sextape que j'ai faite, c'est quand j'ai filmé OMPSG au Vélodrome, sinon je vois pas. Non, et puis je vais vous dire, moi, je regarde pas de porno. C'est pas que ça me dégoûte, mais personnellement, ça ne m'excite pas du tout. Non, parce que si c'est pour voir des meufs bien gaulées, faire semblant de prendre du plaisir, pardon, mais j'ai déjà mon cours de Pilates Reformer, en fait. Non, mais je veux dire, pour moi, le sexe, c'est un peu comme la pétanque. J'aime bien pratiquer en vacances, mais je vois pas l'intérêt à la télé, quoi. Et puis, je crois qu'il y a certains angles que j'ai juste pas envie de voir. Non, mais moi, quand je fais l'amour, j'ai besoin de regarder un visage, pas un... Enfin si, parfois oui, bien sûr, quand c'est son anniversaire ou quand l'OM repasse devant au classement, mais bon. Non, le porno, perso, je suis pas fan. Je l'ai dit à un pote il y a pas longtemps, et il m'a répondu, bah c'est normal, c'est parce que vous les filles, vous êtes beaucoup plus auditives que visuelles. J'étais là, alors d'abord c'est complètement faux, et en plus dans les deux cas, c'est toujours non, hold up. Non mais, voilà, globalement, écoutez, je suis assez pudique sur le sujet. D'ailleurs, vous l'aurez peut-être remarqué, je parle très peu de sexe dans mes chroniques. Même quand mon co-auteur essaie de placer des blagues de cul sans que je m'en rende compte, ça marche jamais. Je le sais quand il essaie de m'avoir. Je les vois, ses tentatives. Comme il le dit lui-même, je connais trop bien la couleur de ses douilles. Toujours est-il que, vous l'aurez compris, voilà, le sujet n'est pas évident pour moi. Je me sens pas vraiment concernée. J'ai même pas d'enfant qui pourrait subir les conséquences des dangers du porno, à savoir perte de la notion de consentement, violence sexuelle, isolement social, dépression, dépendance, addiction. Mais peut-être que ma manière à moi d'encourager la démarche, c'est juste de parler de ceux qui savent en parler. Alors l'association s'appelle We Are Lovers. Elle fait un travail remarquable, notamment auprès de la jeunesse, et ce sans aucun jugement, sans moralisation, juste en prévenant que la pornographie, ça peut faire mal. Alors n'hésitez pas à faire un tour sur leur site internet wearelovers.fr. Sur ce, moi, je vais retourner m'installer dans le bar en bas de chez moi, histoire de retrouver un petit peu d'anonymat.
Merci, la star Camille là-bas.
Qui n'est pas sur scène. Hein.
Qui n'est pas sur scène, mais qui est dans French Lover, ouais. Toujours. La bande originale, comme on le dit souvent, est aussi importante qu'un personnage du film. Elle inspire à la fois les racines musicales et la comédie.
Ouais, elle est très succincte, hein. Y a pas grand chose. Non, c'est des petites virgules comme ça.
Elle est fréquente, ouais.
Exactement.
Banjo, ouais.
Ouais, puis il y a un petit truc de folie, de banjo. On s'est inspiré d'un, je sais plus quel film. Enfin, mon concepteur musical qui s'appelle Guillaume Roussel, avec qui je bosse à chaque fois.
Mais c'est la scène dans Délivrance avec ouais, qui joue
ouais.
Le banjo.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est exactement
ça. Moi j'avais pensé à ça.
Ah, c'est Tonton Flingard.
Bah oui, c'est une rêve.
Ouais, non,
c'est plus Délivrance, ouais.
Ça va. Sinon, il y a aussi.
C'est pas ton jour.
On renaît à l'espérance et que l'hiver fuit loin de nous.
Aimé Diona. J'irai revoir ma Normandie, donc. On va justement évoquer la Normandie comme lieu d'inspiration de bandes dessinées, de films, d'intrigues ou de romans, avec Jérôme Marcadet qui sera notre invité dans quelques instants. Mais d'abord, la musique dans votre vie, Fabrice Eboué, on va commencer en 98.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon marre en ce temps-là. Accrocher ces lilas jusque sous nos fenêtres.
Alors avant de parler de ce que vous faisiez en 98, pourquoi ce titre d'Aznavour correspond à cette période pour vous ?
98, j'aurais pu prendre un titre plus footballistique, hein. Mais non, c'est quand je commence ce métier, tout simplement. Donc je trouvais ça très simple, parce que c'est les premières années où tu galères, où tu vas de scène en scène. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. J'ai un témoin à côté. Donc on n'était pas payé généralement, contrairement aujourd'hui dans tous les comédie clubs, etc. Okay. Donc c'était vraiment une galère, mais c'était les années très sympa aussi. Donc.
Et pourtant, dans ces années-là, c'est par la musique que vous voulez éclater aux yeux et aux oreilles du public, notamment du rap ou du rock, d'ailleurs, parce que
moi, j'ai fait les deux sources.
D'accord, vous avez fait les deux.
Moi, j'ai fait les deux. Alors, j'ai eu un petit groupe le temps d'être viré à Nogent-sur-Marne, et puis ensuite, j'ai fait du rap à Joinville-le-Pont avec mes potes de l'époque. Ouais.
Je tiens juste à dire qu'ils ont failli être là aujourd'hui. J'ai communiqué avec eux. Bah oui, parce qu'on a des potes en commun du lycée.
Mais oui, c'est vrai. Mais toi, t'étais où
Moi, j'étais pas là. Moi, mais par
lui, il faisait un bowling chez GG.
Non, mais par contre, il a dit, enfin, Éloi notamment, qui est un pote, a dit non, je pense pas que ça fasse plaisir à ta voix. Mais avec Nicolas Pain qui était prêt à dire tout ça. Voilà.
Oh, on a bien rigolé.
Oui.
Oui, parce que là, on se fait un peu.
Je voulais partager ça avec moi. Pour dire, c'est que avait...
Nagui, c'est toujours.
Ils ont dit, on veut pas mettre.
Ah, j'avais deux, trois vannes là, mais je les ai. Je sais pas ce que j'en ai fait.
Je vais aller faire un café.
Et vous voulez. Vous avez essayé également de passer par l'écriture. Vous avez
envoyé deux, trois trucs à des boîtes d'édition. J'ai jamais eu de retour.
Mais ça veut dire que c'était une période de votre vie où vous vouliez exister sous la lumière, soit de la musique, soit du stand-up, soit de l'édition.
Non, j'ai toujours beaucoup écrit. Que ce soit des chansons effectivement, que ce soit des raps pour des potes, ou moi j'ai essayé mais j'étais pas dans le rythme, donc je me suis dit c'est quand même la base. Et puis par hasard, une fois je suis au Field au Trévise là le dimanche soir, puis je vois les premiers sketchs, je dis bon, j'arriverai globalement à écrire un truc comme ça, et puis après je me suis dit, bah autant essayer moi-même sur scène, c'est comme ça que je me lance.
Qui vous a inspiré?
Je peux pas vous dire quel comique j'ai vu ce soir-là.
Et je
lisais du Desproges pour le coup, mais j'étais pas. Alors il y avait Rire et Chanson qui existait déjà à l'époque, mais j'étais pas un consommateur de comiques pour
d'accord.
le coup.
D'accord.
Non, de toute façon, c'est un conglomérat de tout ça. On lit Desproges, on regarde Saturday Night Live et tout ça, ça finit par infuser.
Bah à l'époque, Saturday Night Live, il fallait connaître. Hein. Moi, je connaissais pas tout ça. J'ai pas eu toute culture comique, encore moins américaine.
Le Centre 6
ou
le
Centre 6, je sais pas comment il faut le dire. Centre 6, c'était vers métro Ludru-Rollin dans le 11e. Donc,
et ça a été la première scène.
Ouais, ça a été la première scène.
En 2006,
vous chantez pas mal quand même.
Ouais, bah voilà, tu vois, le rythme c'est pas ça, mais la voix je l'ai.
Ouais. Bien posé là. Hein.
Il y a toujours une musique qui met de l'ambiance quand on fait un stand-up. Là, c'était la période du Jamel Comedy Club en 2006. Mmh. Il faut trouver le morceau qui permet de rentrer, de faire le signe au DJ, d'arrêter la musique. Il faut trouver un tempo.
Quand on commence, on essaie de mettre des morceaux qu'on aime bien, tu sais, généralement, ou des trucs entraînants. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, là, moi, je finis le rodage de mon nouveau spectacle. Et pour le coup, ma galère, c'est quelle musique je mets. Mmh. Et je trouve que c'est un des trucs les plus durs.
Parce qu'il en faut une.
Bah ouais, mais j'aime bien que ça signifie quelque chose par rapport au spectacle, donc c'est pas toujours le plus évident. Mais au départ, je mettais des trucs entraînants, il faut juste que les gens tapent des mains. Maintenant, je sais que c'est un sens par rapport au spectacle.
Du coup, ça fait partie du spectacle, cette réflexion?
C'est pas dans le spectacle, je vais pas chier les gens avec ça, mais c'est important, tu vois, pour savoir.
Qu'est-ce que le Jamel Comedy Club vous a apporté?
Bah écoute, beaucoup de choses. D'abord,
la rigueur dans l'écriture, c'est une manière d'écrire.
Non, j'ai toujours eu ça. Ça vient de ma mère, je dis, qui était prof d'histoire et prof de français. Je crois qu'elle m'a transmis le goût de l'écriture et de la lecture aussi. Mais non, le Jamel Comedy Club, c'était l'esprit de troupe, évidemment. C'est paradoxal. On voulait tous faire du one man show et on a fait une troupe pendant quelques années. Donc évidemment qu'on est tous retournés ensuite à notre carrière solo, mais
sans que personne ne pique des vannes à l'autre.
Moi ça m'est pas arrivé, mais certaines personnes refilaient des vannes aux autres, les autres disaient merci, elle est super, et en fait ça venait d'Américains, donc
vivement ce livre, vivement ce livre, Fabrice.
Il y en a qui ont été piégés par Ricochet sans le savoir.
En 2006, l'année dont vous étiez donc au Jamel Comedy Club, vous êtes repéré également par Marc-Olivier Fogiel. Alors vous êtes repéré par Marco ou placé par Kader Aoud?
Non, je crois que c'était une proposition via Nicolas Plisson, qui connaissait bien Kader et qui en bossait à l'époque, et qui était venu au Jamel Comedy Club, qui ont dit qu'ils cherchaient quelqu'un dans l'émission.
Et donc là, l'idée était de faire un portrait de l'invité, d'avoir un billet d'humeur, c'est ça?
Ouais, ça a été des... C'est pour ça que j'ai choisi ce morceau.
Ça a duré deux ans, quand même.
Deux ans. Mais c'est pour ça que j'ai choisi ce morceau, Innocent Man. Parce que, c'est le début de la médiatisation, le Jamel Comedy Club. Et surtout, quand vous êtes absolument pas aguerri à l'exercice médiatique, débarquer dans une émission en direct à l'époque, tous les soirs à faire le sniper en étant totalement inconnu.
Le vendredi soir sur la 3, c'était.
C'était le mardi soir sur M6, mais c'est pas grave.
Sans blague.
Ouais, c'était le concept d'avant qui était sur la. Ensuite, nous, c'était sur M6 le mardi soir, en deuxième partie de soirée.
Nagui était sur Inter.
Mais non, je sais pas, mais j'avais souvenir
avant,
de vendredi.
Oui, il y avait une version de Marc-Olivier Fogiel qui était avant sur France Télévisions.
Ok, d'accord.
Et ensuite, il y a eu quelques années sur M6. Mais je me suis pas. Et Dieu merci. C'est Facebook démarre toujours. Parce que j'aurais fait cette émission avec les réseaux sociaux d'aujourd'hui, j'aurais pris très très cher dans la gueule, je crois.
Il y a eu des invités qui vous ont marqué, en bien comme en mal, peu importe.
Oh bah oui, moi j'ai cette anecdote de toute façon du fameux greffé des mains qui avait été invité. Vous savez, ce monsieur qui avait perdu ses mains dans un accident, okay. Il a eu des nouvelles mains et la greffe avait bien marché. Okay. Il arrive le jour de l'émission avec plein de bagues sur les doigts. Et donc moi je posais des questions et je lui demande si les bagues étaient déjà sur les mains ou si elles avaient été rajoutées ensuite. Alors ça avait fait... un peu polémique, etc. Mais moi, j'allais voir les invités au départ, lui dire est-ce qu'on peut faire
est-ce
des blagues.
Il m'a
dit oui, allez-y, on est là, c'est une bonne nouvelle, j'ai des mains. Il m'a dit donc allons-y. Ouais. Donc voilà quoi.
Tout va bien. En 2008, vous écoutiez. Et là, c'est la période Ruquier. C'est-à-dire, vous passez de Marco à Ruquier.
Ouais, parce que le refrain de ce morceau que j'ai choisi, c'est Neighborhood Sniper, le sniper du quartier.
C'est ça, qui était le rôle que vous aviez dans l'émission.
Dans l'émission, alors surtout, on va se gêner sur Europe 1, où on était particulièrement libre. J'avais une espèce de duo avec Benichou, on pouvait s'en foutre plein la gueule chaque émission. Et j'étais vraiment le sniper, à tel point que Laurent m'avait pris tous les jours. Et ça aussi, ça fait partie des choses qui ont permis de remplir mes salles petit à petit et de bien décoller. Donc, mais c'est là où j'ai pris le plus de pieds à jouer le rôle du sniper. Ouais.
En 2010, vous écoutiez Iggy Pop. Autre style de musique, mais vous disiez vous-même être partagé entre le rap et le rock.
Ouais, je suis très éclectique au niveau musical. Et
Iggy Pop, bête de scène, je sais pas si vous avez déjà vu un concert d'Iggy Pop.
Pas en live, j'ai pas eu cette chance, mais
c'est ouf.
Ouais, impressionnant avec son corps particulier. Ouais, c'est...
Bah, il finissait généralement en nu.
C'est
pour ça qu'on l'appelait l'iguane.
Mais non, alors même s'il y a un morceau sur un autostoppeur, quand je suis en tournée, j'adore écouter ce morceau. Et comme ça correspond à ma première tournée avec mon spectacle en solo, on est bien, j'aimais bien écouter ce morceau.
Faites entrer Fabrice Eboué.
Ouais, exactement.
Ce qui donne un petit côté coupable.
J'aurais pu prendre la bande-annonce de Faites entrer l'accusé pour Christophe Ondelat, mais à qui j'ai eu la chance de rendre hommage dans mon précédent film avec Barbac. Ouais.
Comment vous définiriez votre style, ou du moins à l'époque déjà, vous dire, parce qu'il faut trouver un créneau, il faut se distinguer des autres qui font des tournées, qui font des sketchs, j'imagine, non ?
Ouais, bien sûr. Alors je pense que c'est le tout début de l'inflation des comiques, hein. Rien à voir avec aujourd'hui où c'est devenu. Je sais pas s'il y en a trop, en tout cas je plains ceux qui doivent percer aujourd'hui, parce que moi quand j'ai démarré au début des années 2000, fin 90, on est 20 à Paris, hein. Il y a 3 scènes, on connaît les sketchs des uns et des autres par cœur. Alors il y a moins de possibilités puisqu'il n'y a pas les réseaux sociaux, on collait encore les affiches d'Avignon tous les jours, hein, nous les blancs manteaux, hein. Mais pour le coup il n'y avait pas aujourd'hui c'est compliqué, hein. c'est un panier de crabes, hein. Et puis nous il y avait quand même cet esprit où quand on faisait un plateau on pouvait passer derrière l'autre pour faire marrer, c'était des sketchs ensemble quelque part. Aujourd'hui c'est devenu très professionnel, je viens faire mon passage, je m'emmerde pas. Donc c'est quand même différent comme mentalité. Ouais.
Et ça ne répond pas à la question de comment définiriez-vous
votre écriture, c'est
du stand-up en tout cas. Parce que sketch, stand-up...
J'ai pas ce côté... Moi, quand je fais mes rodages de spectacle, je démarre par aller dans les comedy clubs aujourd'hui pour rester au contact justement de ces jeunes, etc.
Pour voir si les vannes fonctionnent
Pour voir si les vannes... Okay. Et je prends le micro-main. Ce que D'accord. je déteste faire, en fait, parce que moi, je déteste avoir un micro. Et moi, j'ai commencé avec du café-théâtre au Blanc-Manteau, on faisait plus du café-théâtre, des personnages, etc. Donc, je pense que j'ai trouvé un entre-deux aujourd'hui. Mais l'adresse publique avec micro, etc., moi, ça me gêne. Et ce que j'aime, quand vous faites 2 ans de tournée avec le même spectacle, ce que j'aime, c'est jouer. Je suis sur scène pour jouer. Et un micro, alors, il y en a qui le font très bien avec micro, attention. Hein. Mais moi, je me sens plus dexter sans rien dans les mains.
C'est amusant, ce détail du où est le micro et comment on s'en sert pour voir le genre d'humour que l'on fait.
Ouais, bah après il y a
je comprends la différence. Comme on pourrait dire, il y a ceux qui font de la télévision en étant assis, ceux qui font de la télévision en étant debout, en disant ça change évidemment le ton de la voix, le rythme d'une émission.
Complètement, sur la voix, t'as totalement raison, puisque parler dans un micro, la voix est beaucoup plus claire, on a besoin de moins forcer la voix, donc on joue moins sur ses intonations. Après, t'as des génies qui, des mecs comme Richard Pryor, tu voyais plus le micro, où il s'en servait parfaitement, ça devenait un ustensile. Donc, je veux pas caser, y a ceux qui ont des micros, pas de micros, mais moi je suis plus à l'aise sans, en tout cas pour jouer. Ouais.
En 2011. C'est la BO de votre film, non?
Ouais, ça c'est la BO de Casse Départ. Ouais.
Stéphie Selma, avec cette comédie co-signée avec Thomas Nguyen. Ouais. Et puis des 2 millions, enfin un énorme carton.
Ouais, et tu vois, si j'ai choisi Pablier, alors c'est effectivement la bande originale Pablier, c'est par rapport à la mémoire de l'esclavage, effectivement. Mais moi, Pablier, parce que c'est mon premier film, c'est fait avec une naïveté absolue, on connaît rien au cinéma. On arrive avec Thomas, on est des potes, on fait la fête ensemble, on est ensemble au Comedy Club, on arrive là-dedans et on a pris vraiment ce film comme une colonie de vacances. Il fait 2 millions d'entrées, c'est la cerise sur le gâteau, mais j'ai jamais reconnu ça à nouveau, parce qu'après t'es dans le calcul, t'es...
Parce que vous n'aviez plus cette même fraîcheur.
Et bah ouais, non mais il n'y a plus cette naïveté, cette candeur. Le jour de la soirée chiffre, on nous dit c'est 150 000 entrées premier jour, tout le monde nous tombe dans les bras, nous on dit ce qui leur arrive, on sent tout
ça. Mais lâchez-moi monsieur.
Oui, c'est exactement ça, tout ça, nous on s'était juste bien marré, on était contents, mais vraiment, ouais, c'est le souvenir de la candeur et de mecs qui débutent sans aucun objectif autre que rigoler, quoi.
En 2017...
Pouvoir aimer sans rien attendre en retour, ni la gare ni grand amour.
Pourquoi ce titre de Florent Pagny?
Bah parce que Coexister, c'était donc moi qui jouais le producteur, qui a l'idée de réunir un prêtre, un rabbin et un imam, et il reprenait cette chanson. Et donc t'avais Jonathan Cohen, qui est aussi un grand chanteur, qui le reprenait parfaitement. Ramzy qui n'avait pas dormi.
En rabbin dépressif.
Ouais, voilà. Ramzy qui jouait un faux imam.
Dépravé.
Qui devait le chanter sur le plateau, qui arrive avec 2 heures de retard, qui n'a pas appris le texte, donc il faut des grands panneaux. Et puis Guillaume de Tonquédec, très bon élève, mais qui n'arrive pas à chanter dans le rythme.
C'était en tout cas... Alors, est-ce que là, vous avez eu le succès que vous attendiez? Parce que moi, j'ai trouvé ce film très drôle.
Ouais. Aussi. Combien on a fait, 700 000 entrées ou autre? Tu sais,
Oui, moi, j'avais 1 million, mais...
Non, on fait pas le million avec ce film. C'est marrant parce que c'est une autre époque. Et je crois que... en fait, on le sent quand on fait des avant-premières de films. Et chaque fois que je rentrais dans une salle pour présenter le film, avant que les gens l'aient vu, il me disait toujours, pour certains, mais il y a déjà eu Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, donc pour... alors que le film n'avait strictement rien à voir, ni dans le traitement, ni dans le thème d'ailleurs. Et le succès, à mon avis, de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu avait un peu fait ce genre de film avec différentes communautés ne pouvait plus marcher derrière. En tout
cas. Quand vous prenez l'idée, quand vous écrivez un film comme Barbac aussi, qui est arrivé après, il faut toujours se prendre un phénomène de société, une tendance qui parle à tout le monde. Le VG slash le carnivore, la montée justement des intégristes, il faut toujours avoir quelque chose qui résonne.
En tout cas, moi j'essaye de faire ça.
Pas l'histoire pour l'histoire, quoi.
Mes spectacles sont un peu construits de la même façon. Je prends des grands thèmes de société, puis après j'essaye de le joindre à mon histoire en spectacle, d'écrire des histoires par rapport à ça.
Mais quand même de faire passer aussi des petits
messages. Oui, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait du fond, moi j'aime Zola, j'aime la façon dont il retranscrit son époque à travers des histoires. À mon petit niveau, c'est ce que j'essaye de faire aussi.
Et puis dans le burlesque, à chaque
fois. C'est ça.
Voilà.
Jérôme Marquette nous a rejoint. Bonjour, monsieur.
Ah, bonjour.
Vous êtes auteur de deux livres sur la Normandie. La Normandie est très présente dans les romans, dans les bandes dessinées, dans les films. C'est un décor parfait.
Ah, oui, effectivement, la Normandie, je pense, est une des régions les plus littéraires de France, avec de très grands auteurs dont je parle dans mon livre d'une aspiration.
Comme les plus connus.
Alors les plus connus, on va parler de Flaubert, qui écrit comme Gérald dans des carnets. Mais il y a aussi Guy de Maupassant, mais beaucoup d'autres, effectivement. Enfin, il y a à la fois des auteurs qui sont nés en Normandie, des auteurs d'adoption.
Ouais, ce que j'allais dire, on n'est pas obligé d'être né en Normandie pour écrire sur la Normandie ou sur les falaises d'Étretat.
Voilà, exactement. Voilà. Donc, bon, on parle d'Étretat, il y a Maurice Leblanc, par exemple.
Arsène Lupin.
Et puis il y a aussi des auteurs de passage, entre guillemets, je pense à Victor Hugo, par exemple. Où il y a d'ailleurs un très joli musée près de Rouen, à Villequier. Et alors c'est malheureusement pour lui des souvenirs tristes, puisque c'est là où il a perdu sa fille.
Ouais.
Mais il n'empêche qu'il était très attaché à la Normandie et ça lui a inspiré sans doute les plus beaux vers des contemplations.
Alors là, vous parlez beaucoup du décor. En fait, il y a aussi toutes les légendes qui vont avec la Normandie. Il n'y a pas simplement le paysage peuvent apporter. Il y a le débarquement. Il y a tellement de choses qui se sont passées en Normandie.
Ah, effectivement, oui. Bon, il y a tout sur l'histoire. Bon, on peut parler effectivement de la légende. Enfin, ce qui n'est pas une légende. D'où est née la Normandie? Les Vikings, Roland, qui est le, je dirais d'une certaine manière, le fondateur de la Normandie, qui était un chef viking, et qui dans les débarque avec sa bande de vikings dans les années 800.
Parce que géographiquement, c'était entre guillemets des côtes faciles à
atteindre. Ils arrivaient de la mer et puis il y avait
on débarque facilement en Normandie, vous voulez dire?
Oui, on emprunte la Seine en fait et on descend. Donc ils se sont fixés aux embouchures de la Seine et de là ils ont fait des raids et petit à petit, ils ont grignoté tout le territoire. Ils se sont arrêtés ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'île de France, puisque le roi de France résistait. Et ça a fini par une espèce de paix des braves, donc, où en renonçant à sa religion et en devenant catholique, il a été ce comte de Normandie et fait duc de Normandie.
Comte de Normandie.
Oui, au début il était comte de Normandie.
J'ai entendu autre chose.
Et ensuite, le descendant de Roland devient duc de Normandie.
D'accord.
Et effectivement, il devient c'est Guillaume le Conquérant qui va conquérir l'Angleterre et qui va avoir la particularité d'être à la fois duc de Normandie, donc vassal du roi de France, et en même temps roi d'Angleterre. Et donc,
parler un mot d'anglais.
Sans parler un mot d'anglais.
La légende, les clichés que l'on a sur la Normandie, au-delà du peut-être banque oui, peut-être banque non.
Ce que je voulais dire sur les Normands eux-mêmes.
Oui.
Alors, c'est vrai que on parle beaucoup du paysan normand comme quelqu'un de taiseux, d'économe, près de ses sous. Mais moi, je tournerais ça en qualité. C'est quelqu'un qui est prudent.
Qui sait mettre de côté. C'est pas un radin, c'est quelqu'un qui prouve.
Voilà, exactement.
Il y a une nouvelle de Maupassant qui est très drôle sur le sujet, avec quelqu'un qui doit veiller, quelqu'un qui est en train de mourir. Et le paysan peut pas veiller sa femme qui va mourir et donc paye quelqu'un. Sauf que la personne dit, moi, faut me payer 10 heures. Après, je te le fais gratuit si tu veux. Mais ça la fait chier parce qu'au bout de 12-13 heures, elle est toujours pas morte. Je perds du temps sur mon travail. Donc elle va essayer de le faire mourir petit à petit. Mais c'est assez rigolo. Ouais.
Il y a encore des endroits secrets parce que ce que dénonce le film, entre guillemets, c'est.
L'invasion des Parisiens.
Le Parisien, voilà. C'est ça qui envahit.
C'est vrai, faut
me dire quelle région n'est pas envahie par les Parisiens. Ouais. Hein.
Mais c'est vrai que. La proximité de Paris fait que il y a beaucoup de Parisiens qui ont des résidences secondaires. Alors, il y a à la fois ceux qui ont des résidences secondaires à la campagne, on peut parler du Perche, de l'Eure, qui ne sont pas très loin de la Seine-Maritime, et puis ceux qui ont des résidences près de la mer. Et ce n'est pas tout à fait les mêmes Parisiens. En
oui, mais ça fait vivre l'économie.
Ah ouais, complètement.
Ah, moi, je croyais que ça vous dérangeait encore.
Pas du tout, ça ne me dérange pas.
Normandie, lieu d'inspiration, et également sans clé des manoirs et châteaux de Normandie, là, pour apprécier les paysages. Tout ça aux éditions bien nommées de La Falaise.
Des Falaises. Mmh. C'est une petite maison d'édition qui est basée à Rouen.
Parfait.
Et j'ai eu la chance d'écrire 3 livres pour eux. Voilà.
Merci Jérôme Arcadet d'être venu à Sud Echo.
Merci de votre invitation.
Belle journée. Voici Emma Beaujean. Bonjour Emma, hommage à qui aujourd'hui ?
Alors tous les jours dans cette émission, je rends un hommage et aujourd'hui j'ai décidé de rendre hommage à la province. Aujourd'hui je souhaite m'adresser à toute la province, bien que ce soit déjà un peu bizarre comme terme, province. C'est vraiment un terme de parisien, la réponse à la question comment on pourrait appeler tout sauf nous, Propal, les Moldaves. D'ailleurs, apparemment il ne faudrait plus dire province, il faudrait dire les régions. Mais bon, quand tu viens de province, tu finis par aimer dire la province parce que c'est relou de dire en région. Puis bon, c'est comme si c'était moins méprisant de renommer le mépris. C'est comme appeler les gens qui ramassent des saloperies des techniciens de surface. C'est juste toi que ça fait moins culpabiliser. Moi, je défends la province. D'ailleurs, je suis la première à dire que les grandes villes de province, c'est Paris sans les problèmes. Après, je reviens de Strasbourg. Bon, c'est Paris sans les problèmes, ni le métro. Boring. Hashtag marché de Noël. Hashtag 25 euros les spitzulu. Yeah. Donc moi, j'ai grandi dans les Drômes. Mais par contre, j'ai fait toutes mes années lycée en métropole. Et justement, donc, en province. Et j'ai vécu des très belles années là-bas. C'était mon prime, mon plus beau souvenir, la micaline. C'est un truc qui n'existe pas que en province, on est d'accord, mais pourquoi on ne mange pas de maxi pain au choco à Paris? Pain brioché, pain au chocolat, cookies enrichis au beurre. La micaline vous offre un moment moelleux et câlin.
à vos artères. La Micaline, espace Raymond Barre, dans la zone commerciale de la Berdoule, en face du Kiloutou, entre le Palais du Gin et la discothèque Le Huis Clos, à seulement 20 km de la salle polyvalente Daniel Morin. Dans les zones commerciales de province, on a aussi les salons de coiffure au nom tiré par les cheveux. Oh, MDR, un jeu de mots juste hilarant, je suis un monstre, je suis un putain de monstre. Je vous ai fait un petit recensement non exhaustif, enfin non exhaustif. Ça commence avec un hair, ou attention, il y a quand même un parti pris. Un hair de famille, la doublette faudra tif hair, ça te la coupe. Hein. Et après, parfois ça a du sens, tel que diminutif, bon ok, ça coupe, oui pourquoi pas, on a l'idée. Par contre, concernant l'abaissed hair, bah envie de dire qu'elle est le putain de rapport, ma Cathy. Alors, pas de shame vis-à-vis de Cathy, puisqu'on l'adore, enfin parce que oui, tout le monde en province se connaît. Enfin, du moins, tout le monde dit qu'on se connaît. Par contre, dès que t'interroges les voisins du gars qui a massacré 20 personnes, ils sont là. Eh ben non, c'était un voisin très discret. Non, moi je l'ai pas vu beaucoup, monsieur Bernard. Bon, il achetait quand même vachement souvent des sacs de chaux et il jardinait très tard la nuit, le gars. Et le pire dans le pseudo-clash entre Paris et la province, c'est qu'à part quelques personnes, pratiquement personne ici n'a grandi à Paris. C'est une ville d'adultes, je veux dire qu'on rejoint à l'âge adulte et dont on devient soi-même le cliché qu'on avait imaginé depuis sa propre province. T'as 18 ans, t'es à Grenoble, tu dis « Eh ben néant, on est pour les parigots avec le café de bobo, suffisance l'eau. » Et puis le mois suivant, tu montes à Paris pour un stage, au bout de 3 jours, t'es là « Excusez-moi, excusez-moi, en fait j'avais demandé du lait d'avoine. » Et alors, dans un super livre qui s'appelle « Ceux qui reviennent » de la sociologue Pauline Rochard, elle parle de l'exode inversé, celle des néo-parisiens qui rentrent au bercail. Elle dit « Et si ceux qui revenaient étaient les mieux placés pour penser ce qui nous lie plutôt que ce qui nous oppose ?» Alors ça touche évidemment les plus jeunes en quête de sens. Alors si vous peinez à savoir où c'est la maison, dites-vous qu'on est ensemble et que c'est déjà un petit peu le début d'un chez-soi. Cet hommage, il est pour vous. Merci de m'avoir écouté.
Bravo.
Les trois prochains vendredis seront les trois dernières d'Emma Beaujean au Mathurin à 21h.
Tanguy Passereau, de quoi vas-tu nous parler ?
De Georges Clooney en interview sur France Inter, il a dit du bien de la SNCF, c'est la première fois qu'un être humain tient ce genre de propos.
Fabrice Eboué, notre invité, nous parlons de Gérald de Conquérant au cinéma ce mercredi, et puis on parlera également de la tournée avec le nouveau spectacle Solitude au pluriel. Bande originale avec Emma Beaujean, avec Camille Lava, Bruno Becchi, Oldelaf, Tanguy Pastureau, Daniel Morin.
Coucou Daniel.
Notre invité, monsieur Fabrice Eboué.
France Inter, la bande originale. Leïla Kadour et Nagui.
Leïla, que vous retrouverez bien sûr demain à ce micro. Fabrice est notre invité. On parle du film qui sort ce mercredi avec Gérald Le Conquérant. Et on parle également de ce nouveau spectacle, le cinquième, qui est déjà un succès avant même qu'on sache ce qu'il va y avoir dans le spectacle. Ça s'appelle Solitude.
Du coup, il va falloir écrire.
Il a le temps. Il a le temps. Ça sera que qu'en 2026.
Enfin, on est à un mois quand même. Si je ne l'ai pas écrit, je suis mal
barré. Ça passe à une vitesse.
Ce calendrier que
c'est
je dois
vrai
faire.
Qu'on est ce premier, ce calendrier de l'avant.
Bien sûr.
C'est vrai qu'on est le 1er décembre, ça va vite, ça va super vite. 13 fois les Folies Bergères et c'est déjà complet. 3 Grands Rex et c'est déjà complet. 26 Zénith, il y en a 17 de complet et puis il reste quelques places dans les autres. Une tournée incroyable. Il y a l'ouverture du Trianon également, ça sera en juin, du 5 au 12 juin au Trianon et de nouvelles dates au Zénith. En 2027.
Ça fait chaud. Pas complet.
Ouais, non, ce que je veux dire, est-ce que ça fait peur ou ça fait plaisir ?
Bah, ça fait un peu des deux. Après, j'ai démarré en 98, hein. J'ai vraiment vu le crescendo, quoi. J'ai fait un bon paquet de salles en France. Avec Anne Roumanoff, chaque fois, je vois une affiche d'Anne Roumanoff, je dis, ah, tiens, celle-là, on l'avait pas faite. Mais,
celle-là, d'affiche? Ou de ville?
Ou d'affiche, ou de ville, ouais. Mais, c'est,
30 ans, ouais.
Ça fait plaisir, évidemment, presque toujours d'avoir les salles qui sont pleines à l'avance.
Mais vous avez la célèbre pression de ne pas décevoir.
Ouais,
donc,
parce qu'on parlait de l'inflation du comique tout à l'heure, il y en a de plus en plus. Ouais. À tel point que les Zénith comprend, on doit les réserver, ou même les Folies Bergères, quasiment un an et demi, deux ans à l'avance. Donc
parce que sinon, ils ne sont plus disponibles. Et puis, il n'y a pas que des comiques, il y a concerts aussi qui ont lieu dans ces Zéniths.
Exactement ça. Donc, aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué dans les salles. Donc, deux ans à l'avance, j'étais en train de finir le précédent. que j'avais.
Que vous réserviez déjà.
On réservait déjà.
Sans l'avoir
écrit. Rien du tout, sans rien. Sans... Wow. C'est pour ça que le titre est arrivé il y a 2 semaines. Parce que moi, après, alors après, j'ai fait 6 mois de rodage. D'abord, je commence par 10 minutes et puis je grossis des petites salles. Et là, je tourne à fond depuis. Là, je finis le rodage avant les vacances de Noël. Ouais.
Point commun entre l'affiche de votre spectacle Solitude et ce qui se passe dans le film, le travail capillaire. Ouais. On va quand même en parler un tout petit peu.
Sur l'affiche du spectacle, il n'y a aucun travail, justement. C'est la nature.
Bah, je sais pas, moi je vois un globe avec des forêts, un côté très végétal. Sur cette ressemblance avec l'alpaga dans la coiffure que vous avez dans
C'était pas voulu, le pauvre alpaga du film.
On ne sait pas ce qui lui arrive.
C'est Logan Lefebvre, le jeune acteur dont vous avez parlé.
Qui a improvisé la vanne ?
Moi j'ai jamais vu ça. Il a démarré il y a très peu de temps, il a eu des tout petits rôles. En fait, il est avec ses 4 frères à Dunkerque. Il est pas normand, il est du nord de la France, en train de jouer au foot. Il est repéré par un casting sauvage qui cherche des gens pour le film Les Pires, ouais. Un très joli film. Et il a un petit rôle dedans. Puis après, il fait un tout petit rôle dans L'Amour Ouf quand François Civil est jeune, son meilleur pote. Et moi, je le caste. Il a donc quasiment rien fait. Et là, c'est pas évident parce que c'est de la comédie. C'est pas évident à jouer. Il y a des regards cam. Comme c'est en mode docu, on est tout le temps en improvisation. Il faut trouver des choses. J'ai jamais vu un instinct de cinéma pareil, quoi. Alors c'est dommage parce qu'il n'a pas été pré-nommé dans les Césars, mais honnêtement, j'en ai un peu rien à foutre, moi, des récompenses. Mais pour lui, de là où il vient, j'adorerais quand même qu'il y ait un coup de pouce parce qu'il est vraiment fantastique, ce jeune.
En tout cas, vous n'avez pas répondu à la question du choix capillaire que vous avez pris pour Gérald de Conquérant.
Pour Gérald, je voulais qu'il y ait un côté, ce gars se teint les cheveux, c'est ça qui est intéressant. Ouais. Je voulais qu'il se rapproche, voilà, il cherche à être un peu plus blond qu'il ne l'est. Donc c'était une perruque dans le film. Et
qui a inspiré Yamin Lamal, le joueur de Barcelone aussi, qui a
entre autres, voilà.
et
là, pour le coup, l'affiche du spectacle, c'est bien de pouvoir se dire qu'on a une signature quelque part. J'ai plus besoin de mettre ma tête, le haut suffit. Quoi.
Et avec ça, vous êtes complet.
Exactement, avec une calvitie, on est complet.
Mais je dis bravo.
D'ailleurs, il est arrivé ce matin à l'entrée de la maison de la radio avec un bonnet. On n'a pas voulu le laisser rentrer.
C'est vrai.
On vous reconnaît pas. Gérald Le Conquérant, le bon film. Drôle, fou de notre invité Fabrice Eboué.
Et touchant à la fois, ouais, je tiens à le dire.
Tu as raison, avec du fond aussi et de l'intelligence, ouais, qui nous fait bien comprendre comment, à partir de quelques blessures, ça devient des fissures ou des fêlures qui peuvent rendre les gens totalement fous, radicalisés justement, et qui vont très très loin. Là, ce sont, encore une fois, c'est une comédie, mais on peut comprendre que les bombes placées pour faire sauter les vaches qui ne sont pas normandes pourraient être malheureusement placées ailleurs. Ça reste une comédie.
Tu vas loin.
Comédie tout public, je tiens aussi à le préciser, on l'a pas dit, avec Alexandra Roth qui est très 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 efficace,
également,
très drôle,
ouais.
Également à vos côtés.
Très patiente.
Et la présence de Franck Dubosc. Gérald Le Conquérant, c'est ce mercredi au cinéma. Voici Tanguy Passureau.
Ah oui.
Ce matin, Lilia Cadour est absente, ouais. Et heureusement, parce que jeudi, j'ai joué à Cadourland, autrement appelé Poitiers, et ça l'aurait rendu malade, quoi. Parce que Camille Lavabre à Marseille, Bruno Pecchi à la HSBC, il est suisse, Nagui à la HSBC, il n'est pas suisse. De là, un monde parallèle dans lequel tous les calembours sont permis, ce monde s'appelle l'horreur. Leïla, c'est Poitiers, elle en parle souvent. Alors, petit bilan, je dis ça parce que Leïla est parfois sur la brèche, que j'ai peur de ses réactions et qu'elle va finir par revenir. Poitiers est magnifique. Sans doute la plus belle ville de France et l'un des coins les plus magiques de l'univers. Je pense que Thomas Pesquet est revenu sur Terre juste pour aller à Poitiers. Et j'ai une pensée notamment pour l'hôtel Mercure de Poitiers. Oula. Je ne sais pas si vous le connaissez. Non, alors il a été installé dans une ancienne église. C'est-à-dire qu'on dort vraiment sous une croisée d'ogives. Vers 2h du matin, j'ai eu une révélation mystique. J'ai vu la lumière. Bon, c'était à la télé, je m'étais endormi devant. Je l'ai compris en voyant celui que j'avais pris pour Dieu rabroué, Elisabeth Lévy. C'était la rediff de Pascal Pro. Mais ça aurait pu être Jésus qui m'envoie un message, puisqu'il est en lien direct avec le groupe Bolloré. Donc bilan Poitiers, je valide. Je comprends mieux l'attachement excessif et parfois malsain qu'elle et il a envers ce territoire. Pour les autres de l'équipe, on se voit hors studio. Je vous dirai ce que j'en ai pensé réellement. Hein, une fois que Leïla sera à 10 000 km de là, j'ai mis un AirTag dans le chabichou séché qu'elle porte en collier et on va attendre qu'elle soit loin. Ensuite, je finis le petit bilan de mon week-end puisque la France, ce sont les terroirs. J'ai joué au Hayan en Gironde, TGV Paris-Bordeaux, la ligne Rat-Cannelé. Et là, ma production, qui connaît ni mon âge ni mon goût pour le luxe, m'a pris un Ouigo. Le Ouigo, okay. L'antichambre des enfers. Dès que vous faites plus de 37 kilos, le siège est trop petit. Et il y a une tablette pour l'ordi. Eux appellent ça tablette, mais il n'y a pas la place d'écrire le mot tablette sur cette tablette. À part un ordi pour enfants où quand tu entends meute, t'appuies sur le dessin de la vache, tu ne peux rien poser sur cette tablette. Le Wi-Fi en option. La prise, elle marchait pas. J'ai passé 2 heures à regarder le paysage. C'était atroce. Des prés, des arbres. J'avais tellement la vie de Karine Le Marchand que j'ai failli unir à la voiture-bar un type à l'aspect rural avec une dame un peu chic qui pleurait parce que elle aussi avait pris le Ouigo par erreur. Les amis, j'ai appris qu'il y a voyage et voyage. Le prochain spectacle, je le ferai chez moi. Sauf pour la captation, il faudra un lieu plus grand, je le ferai chez Nagui. Ce sera très beau, il y aura des drones qui survoleront les dépendances. Et les femmes de ménage formeront mon nom avec des serpillères, ce sera filmé du dessus.
Promis.
Pour le trajet retour, alors je vous rassure, j'ai eu un TGV inouï, première classe, wow, j'étais tellement bien. Enfin, un train conçu pour mon corps, quoi. J'ai allongé mes jambes et tiré mes bras, mais quel plaisir, j'ai souri à l'hôte de propreté qui m'a souri. Il a pris mon gobelet vide. Je lui ai dit, vous savez que dans le Ouigo, personne n'est passé. Il a fallu que je mange mon gobelet. Aller en Ouigo, retour en Inouï. Il s'est dit, ce mec a fait fortune en 12 heures. S'il en parle autour de lui, demain, la nouvelle ruée vers l'or se fera vers la Gironde. Bref, moi, j'aime le TGV Inouï. Et je ne suis pas le seul, parce qu'à physique semblable, Georges Clounet également. La semaine dernière, il était sur France Inter dans la matinale, interviewé par Benjamin Duhamel, qui est passé en invité de Gérard Larcher à Clounet, sans sas intermédiaire. Hein, ils auraient plus qu'à aller Kinvé ou Gabriel Attal. Et là, Clounet a dit, il y a 2 semaines, j'ai pris le train pour Paris depuis Aix-en-Provence. C'est-à-dire qu'à 30 km près, il a la vie de Patrick Bosseau. Quoi. Et il a ajouté, les trains de la SNCF sont incroyables, très rapides, très agréables. Ce que personne n'a dit en France de la SNCF depuis l'année de création de la SNCF. Parce qu'en général, on dit, ouais, il est encore en retard. Ou, j'aurais dû m'asseoir aux toilettes parce qu'avec le roulis du train, j'en ai foutu partout. Ou c'est la personne précédente qui a laissé les toilettes dans cet état, parce que parfois dans le train, on ment. Hein, le train n'est pas un espace temporel à part dans lequel les gens seraient honnêtes. La preuve, parfois on achète une salade de quinoa au wagon-bar, il y a 4 grains de quinoa, on dit merci beaucoup, au lieu de mais allez tous vous faire foutre en fait. Bref, Clounet a dit du bien de la SNCF, qui bien sûr a entendu les compliments, jamais ça n'arrive. C'est-à-dire que Jean Castex a convoqué une cellule de crise hein, pour savoir comment gérer cette situation inédite. Et ils ont répondu sur X, ils ont écrit « Cher monsieur Clounet, nous espérons vous revoir bientôt à bord de nos train, c'est-à-dire qu'il va y avoir du monde sur la ligne Paris-Marseille. Parce que si Clounet ramène Brad Pitt et Matt Damon, alors qu'on était parti pour aller rendre visite à sa tante, on va se retrouver dans un film de 2002, quoi. Et ils ont ajouté « The French word for unbelievable is inouï ». Ça, c'est le top de la punchline pour eux. Hein. Voilà, si demain, ils se lancent dans le rap, ça va faire très très mal. Et là, je sais que les jeunes qui nous écoutent, bon, ils sont 4, mais par un effet boule de neige, demain, ils peuvent être 6, se disent « Oui, Georges Clounet, c'est qui ce gars? C'est même pas une resta, comme par exemple Aya Nakamura. » Et hier, dans le TGV Inouï, alors que le Wi-Fi fonctionnait, mais si bien, il a raison, Clounet, l'Inouï, c'est le paradis. Je t'aime, Martial, chef de bord du TGV 8612 Bordeaux-Paris. Je suis tombé sur une vidéo d'Aya Nakamura qui est formidable. Elle est incroyable, c'est la queen. Je reprends les éléments de langage des médias parce que ça m'évite d'avoir à réfléchir par moi-même. Et cette dame, invitée dans l'émission Quotidien récemment, j'ai vu ça en vidéo, a dit « Je pense qu'on n'avait jamais vu une artiste aussi libre artistiquement. » Et là, en fait, elle parlait d'elle-même. Et moi qui doute tout le temps, hein, je me trouve nul. Un commentaire négatif sur Insta, j'essaie de me trancher la veine jugulaire avec ma carte Visa. Ça a été une leçon de vie. Ah mais je vous assure, mais si je croise Georges Clounet dans le TGV, je lui dirai Georges, surtout ne prends pas le Ouigo, hein, don't take the yes go. Je lui dirai, tu sais, brother, que tu es devant l'humoriste qui a révolutionné les codes de l'humour, lèche mes pieds. Puis je me ferai embarquer par la sécurité SNCF, qui ne saura pas que je suis l'artiste numéro 1. Aya Nakamura a aussi déclaré dans la même vidéo, en France, il n'y a pas d'émission live. Je vous laisse là-dessus, Nagui. Bonne semaine.
Merci. J'aime beaucoup, comme tu dis, Aya Nakamura.
Ouais.
Nakamura. Et Tanguy, alors, sur scène.
Attention, la dernière à Paris, le 11 décembre, pour la Saint-Daniel. Merci pour le clin d'œil.
C'est une menace.
À la cathédrale rive gauche.
Fabrice Eboué au cinéma, donc avec son nouveau film. Ça sera ce mercredi, Gérald de Conquérant. Il y a d'autres événements culturels, justement, puisque nous parlons de l'émission Striptease et de cette manière de faire des documentaires ou d'avoir le regard caméra, de concerner le spectateur. Billie Eilish vient d'annoncer qu'un documentaire avait été tourné lors de sa tournée. Qui, à votre avis, a réalisé...
C'est pas quelqu'un de sa famille, parce qu'elle tourne beaucoup avec sa famille,
son
non
frère.
Non,
c'est
son frère.
Son
père. Un vieil oncle.
Alors, Phineas, son frère.
Tu dis quoi? Son frère, ouais. Non.
Non, c'est un grand réal.
Le frère d'Orelsan.
Non, ouais. Plus. Ouais, c'est vrai. Il a des rushs de ouf.
Ah, je sais. Bruno. James Cameron.
Exactement. Ouais. Bien. Ouais.
Qui
James Cameron. Ouais, t'imagines le doc? James Cameron qui a notamment son Avatar qui va arriver ou qui...
Avatar 3, je crois.
17 décembre, voilà. Qui arrivera le 17 décembre, troisième volet de la saga de Feu et de Cendre. C'est assez dingue d'imaginer le concert de Billie Eilish qui ne semble pas, je ne sais pas comment la qualifier, elle n'est pas très expansive, on se dit qu'est-ce que... Si,
je crois quand même.
Elle est très repliée sur elle-même quand même, non ?
Oui, je crois que ça. Oui,
j'ai jamais vu sa tête d'ailleurs.
Non, mais en fait, j'ai jamais vu un concert, donc je suis absolument pas bien placée pour en parler. Mais j'ai l'impression
mais
que
même
si,
sur
elle a
le
quand
réseau,
même un univers quand même assez chargé et intense.
Je suis d'accord. Je suis d'accord, mais pas au point de le dévoiler ou de le raconter. Donc comment James Cameron a pu jeter un regard là-dessus ?
Mais peut-être qu'il s'emmerdait tellement, il s'est dit je vais filmer.
Il y a rien à raconter.
On a, on l'a compris au début que la musique était aussi l'une de vos passions dans la vie. Vous allez souvent à des concerts, enfin à part les zéniths que vous occupez et qui empêchent des concerts d'exister, et les artistes qui sont à la rue à cause de vous.
J'ai des phases, mais je ne saurais pas. Qu'est-ce que j'ai vu en dernier? Si, j'ai vu Schoolboy Q, faut connaître, hein, c'est du rap de connaissance.
Et Billie Eilish, vu par James Cameron, ça vous tenterait?
Non, par contre, ma nièce.
C'est direct.
Non, ma nièce a tout fait pour que je puisse y avoir des places pour le concert de Billie Eilish. Elle m'est redevable toute sa vie, là, parce que j'avais réussi pour le dernier. Donc, mais moi, je ne suis pas un spécialiste de Billie Eilish du tout.
Non, mais le doc, vu quelle est la vision d'un mec comme James Cameron.
D'accord, mais je crois que si on n'est pas fan de Billie Eilish, je suis pas sûr qu'on s'intéresse au doc plus
d'accord.
que ça.
Okay.
Mais c'est un doc ou c'est la captation de son concert?
Non, c'est un doc.
C'est un doc.
C'est un doc à l'occasion de la tournée. Donc j'imagine qu'il y a une sorte de making-of.
On peut aussi regarder des docs sans être fan, parce que moi je regarde beaucoup les mercredis de l'histoire sur la guerre 39-45. Et, par exemple, non mais je ne peux pas préciser parce que pour ma famille qui me voit regarder ça.
Est-ce qu'il y a des documentaires, à part Striptease, on a compris que vous aimiez cette série, que vous regardez ce que justement comme.
Oui, moi je suis très doc. D'ailleurs, je suis plus doc que cinéma. Quoi. Ouais, je confonds. Ouais,
alors, quel conseil sur les plateformes, par exemple, vous nous donnez de voir comme...
Ah bah il y avait sur les plateformes, moi je suis un grand fan et je m'en suis inspiré d'ailleurs aussi pour le film, c'est Tiger Kings sur Netflix.
Ah ouais.
Joe Exotic pour moi c'est devenu une de mes idoles, je le suis sur Instagram.
Il est sorti de prison hein.
Non, je pense qu'il est toujours en prison.
Ah. Pourquoi il est en prison?
Bah déjà pour le nom.
Non, mais pardon, non, mais alors il y a aucune vanne dans ma question, je ne sais pas ce qu'il a fait.
Tentative de meurtre.
Mais non.
Sur sa concurrente en parc animalier. Voilà.
Non, c'est une vanne.
Bah il aurait engagé des tueurs, lui prétend hein. Le contraire, mais il aurait engagé des tueurs pour aller descendre, voilà. Donc,
bah, c'est business, hein, c'est pas.
Plus trafic d'animaux exotiques, donc ouais. Ouais, voilà.
Ah ok. Et vous aimez ça, vous?
Ah bah non, mais si t'as pas vu le docu sur Tiger King, c'est formidable.
Non, j'ai vu quelques images. J'ai pas accroché, pardon.
T'as pas accroché. Bah, regarde l'enterrement quand il enterre son conjoint qui s'en fait exprès, qui décide de chanter une chanson devant la famille. Je peux te dire que c'est des moments. Moi, ça m'a sauvé mon confinement. Hein. Voilà.
Oui, c'était pas un coup.
Ouais. Et ça réconcilie avec la vie. Mais... Ouais. C'est tellement beau.
Autre question. Oui. Dans votre film, vous maltraitez des vaches, vous faites du bien à des taureaux.
Alors, je précise quand même qu'aucun animal n'a souffert pendant le tournage. Ils sont tous morts sur le coup.
Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Là, tu souffres.
Il y a un animal star qui va faire son retour au cinéma.
Le chien d'Emma ?
Le chien d'Emma.
Oui, parce que j'ai adopté un chien, bon voilà, je le dis.
Il s'appelle comment ?
Elle s'appelle Gigi, mais ça n'a rien à voir. Ah si, Zootopie ? T'allais pas à Zootopie ?
Beethoven, le chien.
Non plus.
La scie.
Non plus.
Un animal de compagnie ?
Un animal rigolo, je crois pas qu'il soit de compagnie.
C'est un vrai animal ?
Oui. Ouais.
Franck Dubosc ?
Oui. Enfin, c'est pas un vrai.
Paddington.
Enfin, non, c'est pas un vrai. Pardon.
Paddington.
Ah, c'est pas un vrai.
Marsupilami.
Ah, oui. C'est pas un vrai.
Exactement.
Ouais, ouais. Ah, ouais, non, mais ça n'existe pas, Nagui. Hein.
Si.
Ça va être un choc.
Il fallait plus le dire.
On a demandé si c'était un vrai
animal.
C'est sûr. Putain, là, je m'écroule. Le Marsupilami revient après le film sur la piste du Marsupilami réalisé par Alain Chabat en 2012. C'est Philippe Lachaud qui s'attaque au personnage créé par André Franquin avec des effets spéciaux. C'est la bande à Fifi qui est autour de cette histoire. Faire partie d'une bande, c'est ce qui vous était arrivé aussi. Créer sa propre bande, vous l'avez initié un peu avec Thomas, ça aide à créer, à avancer, à monter des projets, de dire quoi qu'il arrive, on sait qu'on est
qu'on va finir par s'embrouiller.
Puissant. Oui, oui. Non, mais on est plus puissant, on est plus fort à plusieurs.
Ah bah c'est sûr, ce que réussit Fifi, c'est super. Et c'est un rendez-vous, quel que soit le membre de la troupe qui fait un voilà. film. C'est plus simple. Parfois, il faut savoir s'entourer. Après, j'ai un tel amour du one-man show. C'est vrai que c'est très égocentrique de dire ça. Je sais pas comment est né le one-man show. Est-ce que c'est un mec qui voulait pas faire partie d'une troupe de théâtre qui a dit allez vous faire voir, je vais être tout seul, moi.
Ou personne voulait.
Je sais pas dans quel sens ça a marché, c'est mais ça, bon, voilà.
En plus de la bande à Fifi, il y a Jamel Debbouze, Alban Ivanov, Jean Reno et Rim Kérissi, qui fait quand même un peu partie de la bande à Fifi, qui seront au casting de ce film, qui est annoncé pour le 4 février 2026. Est-ce que il y a un héros de bande dessinée que vous aimeriez à la façon justement des Astérix, des Marsupilami ou autres Tintin incarnés au cinéma?
Non, pas forcément.
Il en a fait 2-3 quand même qui étaient pas mal.
Non, c'est pas mon préféré, Tintin. Hein. Moi, je...
Quel héros de fiction alors, sans que ce soit bande dessinée, mais un héros de fiction?
Il y a un truc, moi, que j'adorerais faire qui serait Nana de Zola. Maintenant, je crois que j'en ai pas du tout les compétences. Faut laisser ça à des Giannoli ou des autres qui font ça très bien. Mais je pense pas en avoir des grandes fresques historiques comme ça. Ça demande quand même des choses. Je suis pas sûr de savoir le faire. Puis j'aimerais trop faire une blague à un moment ou à un autre, donc ça risque de gâcher un peu le truc. Mais non, je trouve que c'est... Parce que je vois qu'il y a l'étranger qui vient d'être...
Ça serait original, en tout cas. Ça serait... Non, mais que vous signiez l'adaptation de Zola.
Un classique comme ça.
Bah oui.
Ah oui, non, mais j'aimerais bien le faire parce que c'est un de... Alors moi, je suis très l'assommoir, c'est vrai. De Zola, c'est vraiment l'assommoir que je préfère. Mais un des grands Zola comme ça, j'adore toute la série des Rougon-Macquart, mais pourquoi pas. Ouais.
Ça serait peut-être une manière définitive de régler les comptes avec votre éducation de fils de prof aussi, de se dire, ok, tu sais quoi ?
Vous voyez bien la Normandie,
vois,
maintenant la littérature.
Ouais. Voilà,
voilà maman, je t'aime, maman.
Il y a. Gérald de Conquérant au cinéma, ça sera ce mercredi avec cette Normandie qui est présente. Il y a une musique qui fait partie de la BO, mais si je la passe, je spoil la fin.
Ah oui, bon, faut pas, les gens arrivent à faire cette déduction, ce serait quand même...
On va dire en tout cas qu'il est dans la quête de son identité et que de cette quête d'identité arrivent des extrêmes, des radicalisations et tous les extrêmes sont dangereux, voilà, quel que soit. Mais ce mec est totalement perdu, totalement paumé, sûrement malheureux, non, dans sa vie.
Ah oui, je pense qu'il est très malheureux. Bah oui, et puis il a besoin de se raccrocher à quelque chose. Lui, c'est l'identité, un autre jour, voilà quoi. Donc non, c'est quelqu'un qui est malheureux. Mais c'est pour ça qu'il est attachant. C'est pour ça que moi je trouve qu'il est attachant au départ parce qu'il a un rêve. Et puis petit à petit, moins il arrive à atteindre ce rêve, plus il sent que ça lui échappe, plus il pète un plomb. Ouais.
Au cinéma, donc ce mercredi, le nouveau film de Fabrice Eboué et le spectacle est en tournée. Il y a des dates même en décembre. Vous serez à Montgeron à la fin de la semaine, au Blanc-Ménil le 5, à Longjumeau le 6 décembre, ouais, le 11 décembre à Fourmi, à Tours, on dit Tours ou Tourès, le 20 décembre, et puis
on
ensuite.
On est sur une fin de parcours.
une fin de carrière, même, on peut le dire. Il y a six carrières, il y a eu. Folie Bergère, ça sera en janvier, du 8 au 24 janvier, c'est complet. Ensuite, il y a Nantes, Brest, Amnéville, Reims, Angers, Rennes, Pau, Toulouse, enfin toutes les villes de France, et puis retour à Paris au Grand Rex du 25 au 27 mars, c'est là aussi complet. Il reste des places, j'imagine, pour le Trianon, ça vient d'être annoncé.
Je suis pas sûr, mais je crois que c'est les dernières.
Ça vient de recevoir SMS, c'est mort.
Ça sera du 5, il y a même déjà des dates en 2027, enfin bon, voilà, c'est une réussite et totalement méritée. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Désolé
la liste est longue.
Désolé pour Nagui qui, tout au long de l'émission, a subi les colibets, les moqueries, les attaques de Fabrice. En même temps, il y avait matière. Mais c'est vrai, Fabrice, vous nous avez vengé. Merci. D'ailleurs, on va enchaîner. Old Olaf, tu lui attrapes la tête, on va le passer à tabac, prendre une batte de baseball, faites-en de la charpie. Désolé pour nos auditeurs.
T'as rêvé de le dire, ça.
Ah oui, ça fait du bien. Nos auditeurs curieux qui ont regretté que le passage de l'émission consacrée aux amis d'enfance de Fabrice Eboué, qui ne sont pas venus ce matin, mais que Old Olaf avait contacté, ne dure pas plus longtemps. Et c'est vrai qu'on a pu passer. C'était hyper intéressant. Alors, on en était à Éloi et Nicolas, c'est ça?
Oui,
je prépare la part. Désolé enfin pour tous nos aux auditeurs qui croyaient que Nagui aimait vraiment les animaux.
Bah non, c'est
pas... L'enfant terrible d'Alexandrie, le Fennec du Nil, croit que le marsupilami existe.
Oui. Bah, ouba, ouba, oubi, oubi.
Alors, j'ai rien dit concernant le Père Noël.
Merci Fabrice, c'est
vous.
Merci
à vous.
Et encore bravo, Gérald de Conquérant au cinéma mercredi et Solitude, la tournée à partir de 2026.
L'existence de Nagui aussi, Solitude.
Et c'est ça, allez.